Bienvenue dans ce culte, bienvenue pour ces rencontres et retrouvailles de camp. J'avais à cœur de commencer la louange avec une image qu'on avait eue à la fin de notre camp par rapport à une bougie. Chacun, on avait reçu une petite bougie qui représentait la présence de Dieu par rapport à cette présence qui peut être continuelle tout au long de notre vie. Et j'avais envie, justement ce matin, de vous la présenter là. C'est pas une petite, c'est une un peu plus grosse. Mais je vais l'allumer, puis comme ça, elle représente la présence de Dieu. Dieu est présent parmi nous ce matin, et que pendant ce culte, ben, on peut sentir qu'il est là. Et sa chaleur, justement, cette petite bougie qui représentait Dieu. Alors, je vais l'allumer. Et puis, maintenant, on me voit plus beaucoup, mais ouais. Donc avec ça, bah, qu'on puisse louer le Seigneur, le bénir, être reconnaissant de qu'il est là, sa présence. Et on va chanter avec « Entrons dans sa présence avec reconnaissance » parce qu'il est le roi. Et je vous invite à vous lever. Après ça, un chant s'élève, nos yeux se tournent vers toi. Sois le bienvenu, ô Jésus. Avec nul n'est comme toi. Durant ce camp, on a parlé pas mal de ces facettes de Jésus, qui il est vraiment. Et moi, Il y a beaucoup de choses dans ce chant qui m'a parlé. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. C'est un père, un ami, c'est un sauveur, c'est un seigneur. Et pour moi, en fait, j'ai pu redécouvrir énormément de choses pendant ce temps sur qui est vraiment Jésus, qui est Christ, pour moi, pour ma vie. Et par rapport à ça, il y a ce prochain chant qu'on avait aussi chanté, « Je te donne mon cœur ». Voilà, j'ai renouvelé ça. J'ai envie de redonner mon cœur à Jésus, encore et encore. On le fait des fois une fois au baptême, mais moi j'ai aussi envie de le renouveler. Alors je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Puis c'est aussi un chant, on peut le prendre ça comme une prière. C'est pas un chant à peut-être chanter comme ça, mais après c'est « Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Mon cœur est à toi. » Ce temps de louange, j'avais ce chant « Chaîne d'amour, nous sommes unis dans la famille ». Je crois qu'aussi pendant ce camp, on a pu être bien liés. Et on était chacun des petits maillons. Et je trouvais ça fort, justement, cette image de « Ouais, nous sommes unis dans la famille », car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour.
Voilà, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici ce matin. J'ai eu beaucoup de plaisir à vivre ce camp et je ne sais pas si vous savez, mais vous avez des jeunes exceptionnels. En tout cas, on l'a vu. Hein, ouais. Et nous avons eu beaucoup de plaisir en famille à vivre ce camp. Alors, on m'a dit que j'avais 15 minutes pile. Mais effectivement, nous avons cherché à savoir qui était Jésus. Alors je vais vous inviter à lire avec moi Marc 8, 27 à 29, qui était un peu le fil rouge de ce camp. Et je ne vais pas le lire tout en entier, je vais l'entrecouper de, je ne sais pas si c'est de commentaires ou autre. Jésus et ses disciples partent ensuite vers le village proche de Césarée de Philippe. En chemin, Jésus leur demande « Que disent les gens à mon sujet. » Alors, ils lui répondent, et qu'est-ce qu'ils lui répondent? Que disent les gens à mon sujet? Ouais, ça c'est dans la Bible. Mais aujourd'hui, ils disent quoi les gens au sujet de Jésus? Alors, j'ai fait une petite recherche pour vous, je vous rassure, c'est pas les inconnus. J'ai fait une petite recherche, voilà. Jésus a plus de célébrité sur Facebook que le Real Madrid. C'est quelque chose qu'on découvre, j'ai lu ça sur sportune.fr le 24 janvier, c'est pas très vieux. Si il a beaucoup plus de clics, vous savez, le clic sur Facebook, c'est le petit like, c'est le commentaire, c'est le partage. Et si le Real Madrid a 1,5 million de clics par semaine, la page qu'on appelle Jesus Daily en a 6 millions par semaine. Donc, Jésus, on pourrait dire qu'il est populaire, qu'il est connu, hein, c'est mieux que le Real Madrid. Voilà, c'est ce que les gens pensent. En tout cas, sur sportune.fr, ça les embêtait, parce que sportune.fr dit bien ça dit, puis ils se disent, Jésus, ça payerait peut-être plus que le Real Madrid. Donc, voilà ce qu'on peut apprendre sur Jésus. Que disent les gens à mon sujet? Il y a une nouvelle BD qui s'appelle, c'est Bouddha et Jésus, qui prennent un petit appart ensemble à Tokyo, et qui boivent des bières ensemble, qui pianotent sur Facebook. On pourrait dire un peu, c'est l'interreligieux. Jésus est un être interreligieux. Et cette BD a reçu un prix quand même pendant... j'ai découvert ça aussi le 24 janvier. Comme quoi, c'est pas vieux. Jésus, c'est quelqu'un de moderne, d'interreligieux, pourraient dire les gens. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ah, moi j'ai lu, c'est TF1 qui disait ça. Hein. Il est tellement proche, tellement connu, qu'il y en a qui se le tatouent sur les mollets. Moi, j'ai même pas remarqué que c'était un mollet, mais voilà. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, tiens, il l'a mis sur le bras. Non, on m'a dit que c'était un mollet, donc je le crois. Que disent les gens? Ben, Justin Bieber, il dit que Jésus est peut-être proche de moi, donc il se le tatoue sur les mollets et on en parle. Qu'est-ce qu'on peut lire encore? Quelque chose d'étonnant. On prend un vieux... il était président des États-Unis, hein, Thomas Jefferson, et il a écrit sa propre Bible pour expliquer qui était Jésus. Alors voilà, ça date du 19e, mais étonnamment, on en reparle le 23 janvier 2012. On ressort toute cette histoire dans l'Express de cet homme qui a écrit sur Jésus. Alors Jésus, ce qu'on peut découvrir là, c'est qu'il est peut-être simplement ce qu'on a envie qu'il soit. Hein. C'est moi qui vais vous dire qui il est, donc je réécris la Bible. Il y a même une belle image, si vous allez voir, où il y a une Bible avec plein de trous. On appelle ça la Bible de Jefferson. Voilà, il a enlevé ce qui ne lui convenait pas sur Jésus. Je continue. Au mois de janvier, il y avait quantité de choses sur Jésus. 19 janvier 2012, il y a un nouveau livre qui a été écrit par Petit-Fils. Et dans Marianne, qui est un journal plutôt sarcastique, il y a ce blogueur qui s'appelle Philippe Bilger qui a écrit sur ce livre. Et je trouve très intéressant ce qu'il dit. Je ne me serais pas engagé dans l'écriture de ce billet et j'aurais sans doute choisi des thèmes plus profanes que l'actualité propose à foison si je n'avais pas été profondément touché par la biographie de Jésus écrite par Jean-Christophe Petit-Fils. Donc ce livre est juste sorti novembre 2011. Hein. Donc on écrit toujours sur Jésus. Et ce livre qui fait quand même 609 pages pour redire qui est Jésus au cas où on ne le saurait toujours pas, puisque la Bible n'est pas suffisante, il faut le dire autrement. Et il y a des gens qui lisent ces livres, qui sont touchés et qui écrivent des choses à son propos. Voilà, qui dites-vous que je suis? Hein, ben, la question après, première, c'était, les gens ils disent quoi? Est-ce qu'on sait? Alors là, on a vu cette personne qui cherchait à savoir qui est Jésus, qui va demander à tous ses amis, ses copains. Et là, ça m'a pris 30 minutes pour découvrir ça. Donc, c'est pas très compliqué. Et je suis impressionné rien qu'au mois de janvier, tout ce qui se dit sur Jésus, qu'on peut trouver, et il y a plein de choses. Jésus est encore d'actualité. Mais vous, continue Jésus dans le texte. Mais vous, hein, que disent les gens? C'est une chose. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Ben c'est bien joli de savoir ce que les gens y disent. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et ça a été un peu le fil conducteur de notre camp, de découvrir, d'essayer de répondre à cette question. Hein? Alors on n'y a pas répondu définitivement, parce qu'à mon avis, ce serait prétentieux que d'essayer d'y répondre définitivement. Ce serait prétentieux que de dire qu'on a trouvé la réponse, mais on a cherché ensemble à, j'ai envie de dire, moi je l'ai vécu comme ça, j'espère que vous aussi, j'ai essayé de cheminer avec vous pour essayer de déterminer un peu plus qui est Jésus. Et pour le dire autrement, qui est ce Jésus qui se cache derrière les histoires de l'Évangile ? Parce qu'on le découvre comment Jésus, si tous les gens qui sont autour de nous, ils nous disent des choses, comment est-ce qu'on peut le trouver autrement ? Alors on peut aller dans l'Évangile et découvrir qui est Jésus. Vous allez me dire, jusque-là, c'est assez simple. Effectivement. Alors on va lire un texte ensemble et voir qui est Jésus, hein, histoire que voir est-ce que c'est si simple. Marc 1, on reste dans l'Évangile de Marc. On va lire les 11 premiers versets. J'en aurais pris plus, mais comme j'ai 15 minutes, j'ai pris que 11 versets. Et ensuite, vous allez me dire qui est Jésus dans ce texte. D'accord ? Alors, il faut bien l'écouter ou bien le lire. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Ainsi, Jean-Baptiste parut dans le désert, il lançait cet appel. « Changez de comportement, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés, et Jean les baptisait dans la rivière, le Jourdain. Jean portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il déclarait à la foule, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » Alors Jésus vint de Nazareth, localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Une histoire, que découvre-t-on de Jésus ? Qui est Jésus ? Qui dites-vous qu'il est à travers cette histoire ? Le Fils de Dieu. C'est une chose qu'on découvre dans ce texte. Qu'est-ce qu'on découvre encore ? Il y a au moins une personne qui a écouté. Deux. Il est aimé de Dieu. Cet homme qui se fait baptiser, là, tout d'un coup, on découvre qu'il est aimé de Dieu. Il est plus grand que Jean. Jean faisait 1m75, lui fait 1m78. Qu'est-ce qu'on découvre encore ? Pardon ? Il est puissant. Oui, il nous a dit qu'il est puissant, voilà. Moins puissant que ceux qu'on viendra après. Ah ah ! Était-ce Jésus ? Je m'excuse, je ne vais pas prendre en défaut là. Mais... Il est plus puissant que Jean, on découvre. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, oui. Il est annoncé, hein, effectivement, par les prophètes. Qu'est-ce qu'on découvre encore ? Il vient de Nazareth, en tout cas dans cette histoire-là, ouais. Il est Seigneur. Oui. C'est incroyable de voir qu'à partir d'une histoire qui nous est racontée, tout ce qu'on découvre sur Jésus. Et puis là, on a encore la part facile parce qu'on est juste en train de dire qui il est. Hein ? On répète ce que le texte a dit. Mais saisir alors après ce que ça signifie vraiment, hein, qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il est aimé de Dieu, qu'il est plus puissant, ça signifie quoi ? Tout cela concrètement. Quelle incidence ça a de savoir tout cela sur Jésus ? Qu'est-ce que ça change dans ma vie de savoir qu'il était plus grand que Jean-Baptiste ? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de savoir qu'il a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est important de savoir qu'il était aimé de Dieu? Voilà, c'est toutes ces choses, on les sait, mais alors, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'avais noté 2-3 choses qui ont été dites. Il est une bonne nouvelle, hein, ça nous est donné au départ. J'aime ce terme parce qu'aujourd'hui, on aime beaucoup les mauvaises nouvelles. J'ai montré tout à l'heure, je lis de temps en temps les médias. Jésus est une bonne nouvelle, vraiment, c'est la question que je me pose. Est-ce que vraiment c'est une bonne nouvelle pour nous? Hein? Est-ce que tout ce qui se passe autour de nous ne nous touche pas parce que Jésus est la bonne nouvelle? Donc c'est plus important que toutes les mauvaises qu'on entend autour de nous. Vraiment, est-ce que Jésus est une bonne nouvelle? Est-ce quand on le transmet plus loin, on le transmet comme une bonne nouvelle? Repens-toi, race de vipères, tu es pécheur. Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ah, je suis content de le savoir, ça va nettement mieux là du coup. Je crois que je vais relire les crises financières, ça allait mieux. Enfin voilà, je rigole, c'est important, hein, la repentance. Jean-Baptiste d'ailleurs en parle dans cela, une bonne nouvelle. Pour moi, voilà, je souligne cette question-là et ça m'interroge bien souvent, en quoi Jésus est une bonne nouvelle? Il est le Fils de Dieu. Alors ça, j'ai mis ça parce que c'est quand même quelque chose de compliqué, Fils de Dieu. Hein. Ça fait quand même à peu près 21 siècles qu'on débat sur cette question. Hein. Il y a eu 4 siècles pour se dire, ça veut dire quoi, Fils de Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Il est Fils de Dieu? Moins que Dieu? Enfin, si vous avez déjà discuté avec les gens qui viennent frapper à votre porte par deux, vous remarquez que c'est une question qui est, qui est d'actualité. Si vous discutez avec des musulmans, vous remarquerez que c'est un problème aussi. Oui, Fils de Dieu, mais moins que Dieu. Enfin, voilà, c'est pas simple. Il est Fils de Dieu, est-ce qu'il est Dieu? Voilà. Et ce que je voulais souligner par là, c'est que, dans le camp, ce que j'ai voulu dire aussi, c'est qu'il y a ce qu'on connaît de Jésus et il y a ce qu'on croit. Pour moi, dire que Jésus est Dieu, c'est du domaine de la foi. J'y crois, j'adhère à ça. Je ne peux pas l'expliquer. Il y a un côté irrationnel dans cette donnée-là. Mais voilà, je fais confiance que c'est vrai et j'accepte. Dans la connaissance, il y a connaître avec la tête et il y a ce que j'ai appelé la connaissance intuitive. Il y a, voilà, ce qui est des émotions. C'est quelque chose qui est au-delà de moi. J'adhère. Point final, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais au plus profond de moi que c'est vrai. Et ce que j'ai apprécié aussi dans ce texte, c'est que c'est un chemin qui a été préparé. Hein. Certains l'ont dit, il y a des prophètes, il y a Jean-Baptiste. Hein. Être avec Jésus, c'est être sur un chemin préparé. Voilà, il n'y a pas Jésus qui arrive, tac, ah, super, tout va mieux. Non, ça se prépare, c'est un cheminement. On fait pas après pas. On découvre Jésus pas après pas. Et ça me paraissait quelque chose d'important, d'être sur ce chemin. Alors voilà, on a vu ce que les gens disent, on voit ce que la Bible dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Parce qu'on n'a toujours pas répondu. Vous, qui dites-vous que je suis? Et j'avoue que plus je me pose cette question, plus je me questionne sur cette question, si j'ose dire, plus je me dis qu'elle est vraiment fondamentale. Et paradoxalement, je me dis, c'est incroyable comment on ne se la pose pas dans l'Église. Et vous savez pourquoi on ne se la pose pas dans l'Église? Parce qu'on a l'impression qu'on sait qui il est. Est-ce que c'est une question qu'on se pose en Église? Qui est Jésus? Vraiment. Est-ce qu'on partage les uns avec les autres sur qui est Jésus pour nous? Tiens, on serait étonné des fois d'entendre certaines choses. Qui dites-vous que je suis? Alors souvent, quand on pose cette question, on la voit individuellement, puisque nous sommes dans un monde d'individus, voire individualistes, mais en tant qu'Église. Et ça me paraît vraiment quelque chose d'important de réfléchir. Est-ce qu'on va oser répondre à cette question ensemble? Les jeunes, ils ont vécu leur camp, ils ont vécu quelque chose ensemble, mais ils sont dans l'Église, les jeunes. Est-ce que vous allez cheminer avec eux pour essayer de vous approcher de qui est Jésus? Essayez de savoir qui est ce Jésus alors qu'ils ont découvert dans ce camp, ou les questions qui se posent. Est-ce que, comme cette fille, elle peut aller vers une personne âgée qui sait peut-être plus parce qu'elle a plus d'expérience de qui est Jésus, pour s'approcher toujours plus de qui est le Christ? Ça me paraît quelque chose d'important. Ils ont vécu des choses fortes pendant ce camp. Mais maintenant, est-ce que vous allez vivre avec eux ce chemin? Est-ce qu'on osera se poser cette question dans l'Église, en tant qu'Église? Qui dites-vous que je suis? Le « vous », ce n'est pas forcément un « vous » de politesse, c'est un « vous » communautaire. Est-ce qu'on va y répondre et s'approcher ensemble de la croix? Est-ce qu'on pourra répondre ensemble? Parce que là, il y avait Pierre qui savait mieux que les autres. « Oui, je sais, tu es le Christ !» C'est bien. C'est le début de, pas de sa foi, c'est le début de quoi? De l'Église. C'est le début de la vie communautaire. Et ça, c'est important. Donc oui, ils ont vécu des choses. J'espère que maintenant, ben voilà, l'image de cette bougie qui est là, c'est pour moi, donner ce signe, la bougie, c'est on allume quelque chose au camp, mais il faut la faire durer après, dans la vie. Et pour ça, ils ont besoin d'une communauté. Vous avez besoin d'eux aussi, découvrir, cheminer ensemble. Je vous invite à un moment de prière. Qu'on puisse répondre à qui dites-vous que je suis, mais répondre aussi à Jésus, que bien souvent, on a de la peine à savoir qui il est, qu'on vit des choses qui sont contradictoires avec ce qu'on sait de lui. Mais est-ce qu'on garde notre foi? Qui dites-vous que je suis? Qu'on puisse avoir un moment où chacun peut s'exprimer et dire et prier et poser des questions et demander. Je terminerai ce moment. Je te remercie, Seigneur, pour cette question que tu nous laisses dans les évangiles. Seigneur, qu'elle puisse nous habiter toujours, qu'on puisse toujours chercher plus à te connaître, à savoir qui tu es. Seigneur, garde-nous de croire que nous sommes arrivés. Garde-nous de croire que nous savons tout. Aide-nous à être toujours en quête, en chemin, en marche avec toi, pour mieux te connaître, pour mieux vivre notre relation avec toi. Donne-nous de pouvoir le vivre aussi en communauté, d'oser partager les uns avec les autres. Seigneur, donne-nous que la communauté soit vivante et essaye de répondre ensemble à cette question. Amen. Amen. Répondre à la question « Qui dites-vous que je suis ?» ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Ce n'est pas juste une question qu'on se pose ensemble. Si on est toujours en chemin, pour moi, et c'est peut-être encore un pas supplémentaire, c'est surtout approfondir notre relation à Jésus-Christ. Mieux savoir qui il est, c'est mieux être en relation, dans une relation plus profonde, plus authentique, plus vraie avec ce Jésus, Fils de Dieu. Donc répondre à cette question, c'est aussi une dynamique relationnel, de ce que nous vivons concrètement avec le Christ. Et si je dis cela devant le pain, le vin, c'est parce que lui, il a tout fait pour que nous ayons cette relation. Dieu le Père, il allait jusqu'à le donner justement ce Fils, ce Jésus. Il l'a donné en sacrifice pour que nous puissions avoir une relation intime, particulière. Alors de notre côté, cette relation intime, particulière, elle se cultive, on chemine. Et je pense que répondre à cette question, c'est une manière de cultiver aussi cette relation à Dieu et de répondre positivement au sacrifice qu'il a fait pour nous. que ça soit dans ton travail ou que ça soit dans ta prière, fais tout pour le règne du Christ. Que tu travailles ou que tu pries, que tu puisses être vivifié par la parole de Dieu. Garde en toi le silence intérieur afin de demeurer en Christ et surtout que les valeurs des béatitudes t'habitent tout au long de cette journée. Amen.